Universelle.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, le dialogue des religions. Le sujet que vous propose Idrissa Seydoudia, la controverse en Malaisie où la justice a décidé que le journal catholique de Herald n'a pas le droit d'utiliser le mot Allah dans son édition en langue locale. Vos réactions sont attendues, mais tout d'abord, un bulletin d'information. L'on signale une forte explosion à Abuja, la capitale du Nigeria. L'agence France-Presse, citant les autorités locales, fait état de 21 morts. Pour le moment, l'incident s'est produit dans un centre commercial non loin du siège du gouvernement. L'Agence nationale de gestion des situations d'urgence affirme que toutes les victimes ont été secourues et transportées hors du site. 40 voitures ont été détruites, selon les autorités. Au Mali, arrestation du terroriste présumé Mohamed Ali Hag Wadsoné, principal instigateur de l'évasion du 16 juin dans la prison centrale de Bamako. Les forces militaires maliennes en alerte depuis cette date ont mis la main sur le fugitif dans le quartier ACI Amdalaï. Il a été aussitôt conduit au camp de gendarmerie de Bamako. En République centrafricaine, le bilan est revu à la hausse. Après les affrontements à Bambari, il y aurait plus d'une soixantaine de morts, plusieurs blessés et des dizaines de maisons incendiées. Idriss Fall.
En dépit du calme précaire à Bambari, la tension est montée d'un cran aujourd'hui. Selon une source religieuse, les violences ont fait plus de 60 morts, environ 80 blessés, des dizaines de maisons incendiées et près de 20 000 déplacés dans trois sites. Des miliciens anti-Balaka sont signalés à l'entrée de Bambari vers le pont Waka. À Bangui, Anissé Pounembela, président du collectif des ressortissants de la Waka, appelle les autorités de la transition et les forces internationales à prendre leurs responsabilités.
Nous demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre pour arrêter ce génocide. Aux forces internationales, à travers la MISCA, Sangaris et encore aujourd'hui, effort d'appliquer la résolution 21-27 du Conseil de sécurité afin de rétablir la sécurité, non seulement en RCA, mais particulièrement dans la Waka, parce que c'est dans la Waka que ce dernier temps, ça ne marche pas.
Le collectif demande aux ressortissants de la Waka vivant à Bangui d'observer à partir de ce jeudi 3 jours de deuil à la mémoire des victimes.
Élections législatives ce mercredi en Libye, alors que le pays peine à maîtriser les milices qui s'affrontent depuis la chute de Muammar Kadhafi. Une source hospitalière citée par l'agence France-Presse fait état de 3 soldats tués et 7 autres blessés aujourd'hui.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a rejeté la formation d'un gouvernement de salut national pour aider son pays à faire face à la progression des militants islamistes sunnites. Michel Joseph.
Pour M. Maliki, un tel gouvernement serait inconstitutionnel et contraire aux résultats des législatives du 30 avril, a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. Son bloc est arrivé en tête à ces élections. Le secrétaire d'État américain John Kerry et le président Barack Obama n'ont cessé de l'exhorter à former un gouvernement inclusif, c'est-à-dire comprenant des représentants des minorités sunnites et kurdes. Ainsi, les profondes divergences qui minaient l'Irak bien avant l'offensive djihadiste restent entières. Malgré tout, les premiers éléments de quelques 300 conseillers militaires américains sont déjà à pied d'œuvre en Irak. Les États-Unis, par ailleurs, effectuent entre 30 et 35 missions de reconnaissance par jour au-dessus de l'Irak. Signalons que les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant et ceux du Front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, ont décidé de fusionner à Boukamal, principale localité à la frontière entre la Syrie et l'Irak.
Merci Michel. Le secrétaire d'État américain a déclaré ce mercredi que le président russe doit prouver son engagement total pour la paix dans l'est de l'Ukraine. Il faut des actes et non des paroles, a dit John Kerry à Bruxelles lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Auparavant, le chef de la diplomatie ukrainienne, Pavlo Klimkin, avait réagi positivement à la décision de la Chambre haute du Parlement russe qui a révoqué l'autorisation d'envoyer des troupes russes en Ukraine. Vladimir Poutine en avait fait la demande au début de la semaine. Et puis, le nouvel l'ambassadeur américain en Chine, Max Baucus, a qualifié de menace grave à la sécurité nationale des États-Unis le cyberespionnage commercial mené par Pékin, s'adressant à un groupe d'entrepreneurs. Le diplomate américain a reconnu l'existence de désaccords sérieux sur la question entre les États-Unis et la Chine. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, place maintenant au dialogue des religions.
Foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la Voix de l'Amérique.
Bonsoir à tous et à toutes. Au micro, Idrissa Seloudia, dans le dialogue des religions de ce mercredi 25 juin 2014, la controverse en Malaisie où une haute cour a décidé par une majorité de 4 voix contre 3 que le journal catholique The Herald n'a pas le droit d'utiliser le mot « Allah » dans son édition en langue locale. Le journal a fait remarquer que les minorités chrétiennes de Malaisie utilisent « Allah » depuis des siècles sans succès. C'est en 2007 que le ministère malaisien de l'Intérieur a révoqué l'autorisation accordée au Herald d'employer ce nom. Toutefois, les chrétiens malaisiens ont toujours le droit d'utiliser Allah dans leur culte, leur Bible et leur rassemblement. Nous devons défendre Allah car c'est notre obligation religieuse. J'espère que d'autres communautés, incluant les chrétiens, comprennent cela, a déclaré à l'AFP Ibrahim Ali, chef du groupe de défense des droits des musulmans, Perkasa. Pour camper le sujet, nous retrouvons ce soir Morgane Guiriac.
Oui, bonsoir Idrissa, bonsoir l'Afrique. Alors, selon l'AFP, le conflit avait éclaté en 2007 avec une directive du ministère de l'Intérieur révoquant l'autorisation du Herald d'utiliser le mot « Allah » dans son édition en malais. Le journal catholique avait alors saisi un tribunal et obtenu gain de cause en 2009, jugement qui avait enflammé les tensions par la suite. Une série d'attaques ont été commises contre des lieux de culte, pour l'essentiel des églises, visées par des cocktails Molotov, des jets de pierre et de peinture, faisant craindre un conflit multiconfessionnel. Sur le terrain juridique, la bataille s'est poursuivie et l'interdiction controversée a été réinstaurée en 2013. La Malaisie a évité les conflits religieux au cours des dernières décennies, mais des minorités se plaignent de plus en plus de la restriction de leurs droits, considérée par certains comme une islamisation du pays. L'agence d'information catholique Fides écrit pour sa part, interpellé par l'agence Fides, le père Lawrence Andrew, directeur de l'hebdomadaire Herald Malaysia, déclare « Nous sommes déçus parce que la décision de justice viole le droit à la liberté religieuse et d'expression garantie par la Constitution. Allah est un terme largement employé par les chrétiens arabes dans le monde entier et il se trouve dans la Bible en langue malaisienne depuis 400 ans. Laissant filtrer son amertume, le père Andrew annonce que, en accord avec l'archevêque de Kuala Lumpur, éditeur de l'Herald, nous représenterons un recours devant la Cour suprême fédérale. Selon le directeur de l'hebdomadaire, la décision a été visiblement conditionnée par des pressions politiques. La portée du jugement est toutefois limitée à la publication de l'Herald et ne concerne donc ni la Bible ni les liturgies chrétiennes.
Merci Morgane. Tout à l'heure, les commentaires de nos auditeurs sur Facebook et leurs questions à nos invités. Le pasteur Daniel Capepula, directeur du Centre chrétien de la Victoire dans le Maryland. Fidel Ayulumeya, notre ami, écrivain consultant en développement des organisations que vous connaissez très bien. Alors, pasteur Capepula, Fidel, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Alors, quelle première réflexion à la suite de cet exposé de Morgane ?
Bon, la première réflexion est que les chrétiens étant dans une zone islamique, le mot Allah pour eux, ça veut dire simplement Dieu.
Très bien.
Et comme ils ont été défendus, on n'a pas droit de les priver de parler de Dieu parce qu'ils ont grandi avec le mot Allah.
Très bien. C'est comme chez vous au Congo. Vous utilisez quel mot pour Dieu?
Bon, nous avons quatre langues. Zambéa, Pungu, Mungu, Zambi. Et ça change selon les dialectes.
Effect.
Alors, si le pays a été islamisé, le mot Allah, nous le prenons au niveau généralisé comme Dieu. Donc, l'air privé d'appeler l'air Dieu Allah, ça, c'est vraiment, comme ça a été dit depuis des siècles. Pourquoi le ministre de l'Intérieur veut changer les choses maintenant?
Selon l'article ou les dépêches que nous avons reçues, c'est cédé à des pressions politiques, de toute évidence, lit-on dans les dépêches d'agence. On parle en particulier de ce Ibrahim Ali, qui est le chef du groupe de défense des droits des musulmans Perkasa. Fidèle, est-ce que vous êtes au courant de ce mouvement?
Pas tellement. Le mouvement n'est pas tellement mieux connu. C'est, je crois que l'une des raisons, selon certains analystes qui croient que le mouvement voudrait plus s'extrémiser davantage et comme ça, ils peuvent gagner aussi le grand public. Ils prennent des positions qui sont tout à fait contraires à ce qu'ils déclarent et contraires même à la constitution malaisienne.
Ok, alors nous avons en ligne notre fidèle auditeur Alphonse Mbouaki qui appelle de Kinshasa. Alphonse, allez-y.
Deux questions que j'ai à poser à votre invité. Est-il normal qu'une justice puisse revêtir une couleur religieuse? Ou bien la justice est toujours indépendante? De deux, pour les non-musulmans, est-ce que utiliser ces noms-là, pour ceux qui ne sont pas non-musulmans, est-ce que c'est mauvais ou c'est mauvais?
Ok. Allez-y, pasteur, vous avez entendu la question?
J'entends la question, c'est que lui ne comprend pas qu'il y a des pays islamisés où la religion est officielle et occupe la constitution de leur pays. C'est que lui ne comprend pas. Donc il n'a pas la même liberté de religion comme dans des pays laïcs. Il lui pose la question sans connaissance. Donc, ça dit que ces gens, de l'autre côté, la question est véritablement vraie. Donc, maintenant, c'est question de religion et de l'État.
Fidèle?
Oui, je crois que...
Allô, Fidèle?
Oui, oui. Idriss, je n'ai pas pris la dernière partie de la question.
Bon, alors, Alphonse, vous êtes encore là? Alphonse n'est plus...
Je reprends donc. La deuxième partie, c'est est-ce que pour les vrais musulmans, utiliser le nom de Allah, pour les non-musulmans, est-ce que c'est mauvais? C'est un objet de...
Oui, alors, bon...
Ouais. Ce n'est pas mauvais, parce que il n'y a aucun texte islamique qui interdit à qui que ce soit de prononcer le nom de Allah. C'est seulement quand on voudrait devenir extrémiste et on prend des positions très extrémistes et on arrive à la situation qui est arrivée à le gouvernement malaisien, qui d'ailleurs était toute une position due à des pressions politiques, mais aussi financières, comme on l'a dit dans plusieurs émissions, de certains groupuscules en Arabie Saoudite qui financent des mouvements extrémistes musulmans.
Alors, Fidèle et pasteur Kapepula, on peut dire qu'en réalité, bon, le gouvernement pourrait, à sa décharge, dire que c'est une décision, n'est-ce pas, de la justice et qu'il faut respecter une décision de justice si on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Donc, la question est de savoir, comme on l'a vu dans d'autres cas, si la justice, si la société en quelque sorte ne pouvait pas faire preuve d'un peu plus de tolérance, parce qu'en tant que musulman, moi si un autre groupe qui n'est pas musulman utilise le mot d'Allah, je dis on rend hommage à mon Dieu, où est le problème?
Oui, en réalité, c'est ça la réflexion normale. Parce que ce que nous devons souligner ici, une fois encore, on a remarqué, et dans cette émission, nous l'avons dit plusieurs fois, des contradictions qui existent entre les États qui se disent musulmans ou islamiques, leur constitution et la pratique de leur constitution. C'est le cas, par exemple, du Soudan, où nous l'avons évoqué, et c'est le cas de Malaisie. Mais ces gens se retrouvent sous des pressions des bailleurs financiers, des bailleurs extrémistes dans le monde arabe, qui donnent de l'argent et conditionnent cet argent avec des positions tout à fait extrémistes. Donc la logique comme telle, et même dans le cas du journal Herald, je crois qu'ils ont lancé l'appel et ils évoquent la constitution qui autorise à ce que les expressions religieuses fassent partie de la constitution malaisienne.
Ismaïla Maïga.
Ouais, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, comme j'ai quelques questions à poser.
Allez-y.
Bon, comme moi, j'espère que dans le Coran, on ne dit pas Allah seulement, mais on dit Allah. J'aimerais savoir si ça trouve que ça donne les mêmes sens. Où est dans le Coran, il y a une partie dans le Coran où il se trouve là-dedans Allah. C'est ça que j'aimerais savoir.
Pasteur?
Ce que Fidel vient de dire, c'est la lecture de la Constitution qui cause des problèmes. Et l'extrémisme qui s'annonce. Maintenant, nous, avec vous tous qui êtes vraiment éduqués, c'est question que les gens puissent éviter l'extrémisme pour être modérés. C'est question maintenant d'amener la modération pour dire que non, la lecture des textes, même musulmans, n'a pas mené jusqu'à tel point. Donc, c'est ça notre problème maintenant.
Oui, en fait, Pasteur Capepula et puis Fidel, je crois que notre ami devrait comprendre que le problème, ce n'est pas Allah ou Allahou, mais tout simplement le fait que dans la langue malaise, dans le malais, n'est-ce pas, on dit Allah pour Dieu, comme il y a Mungu dans votre région là-bas, comme il y a Bizimana, Mana, n'est-ce pas, c'est Dieu, et comme on dit Allah chez moi dans la langue Wolof ou en Poulard ou dans n'importe quelle autre langue locale. Donc les malais, la langue, le malais dit Allah. Donc, où est le problème? Allez-y.
La grande. Si nous prenons aussi la question dans son grand contexte, vous savez que l'Église catholique, avec beaucoup trop de réformes qu'ils sont en train de faire, ils ont voulu aussi que l'Église intègre. Ils parlent de l'intégration de l'Église dans l'environnement local, dans le dialecte local. Que le texte biblique reflète la langue locale, l'appellation de Dieu dans la langue locale. Alors, le christianisme étant une minorité en Malaisie, ils ont préféré que la Bible et que leur texte reflètent ce que le Malais appelle Dieu dans son langage, dans sa langue locale. Ils ont adopté pour Allah. Et dans plusieurs langues locales malaisiennes, il n'y a pas que Allah, il y a aussi Kaaba, il y a Baitullah, il y a aussi Solat, qui tous reflètent Dieu. Donc il y a des différents concepts de Dieu dans les langues locales. Mais l'attaque au journal Herald, comme on l'a dit, c'était seulement une attaque ciblée et voulue pour des raisons politiques, parce que vous savez, quand vous menacez un peu les gens politiques, ils se sentent mal à l'aise et ils ont tourné cette colère à attaquer les journaux.
Alors, je vais lire quelques commentaires ici. Les musulmans, dit Alain Kassong, les musulmans doivent reconnaître la liberté de religion à d'autres religions. Je suis désolé de la position de la Cour animée par le sentiment au lieu de chercher une liberté d'expression aux Malaisiens, dit-il. Kabeya Kalombo Doris, quelle différence y a-t-il entre Allah et Dieu? Si c'est la même chose, tous nous avons un dénominateur commun. Qui est Dieu? Adrienne Milolo, la démocratie doit aussi exister dans l'islam. Chacun est libre d'opter une religion de son choix. Et Joselle me dit de l'autre côté de la vitre que nous avons en ligne Kabeya.
Oui.
Allez-y, Kabeya.
Oui, je suis en ligne.
Oui, je viens de vous citer tout à l'heure.
Bon, concernant... Oui.
Allez-y.
Je disais concernant... Ma question était de savoir, on a un dénominateur commun qui est Dieu. Qu'il soit Allah, qu'il soit Dieu, c'est le même nom. Mais concernant, selon notre débat, c'est de savoir la différence entre Dieu et Allah. Et vous pouvez me l'expliquer.
Pasteur et fidèle, l'auditeur dit clairement que en réalité nous avons ce dénominateur commun. Je crois que, en fait, vous avez aussi les Juifs qui appellent Dieu Jéhovah ou Yahvé. Où est la différence, encore une fois? Fidèle, pasteur.
C'est linguistique. Mais le concept reste le même, c'est l'être suprême. Et vous savez, ce débat, l'Église catholique en Malaisie a même fait référence au copte, l'Église copte en Égypte, qui utilise le mot Allah dans leur prédication au lieu de Dieu comme ailleurs. Pour montrer que non, mais écoutez, le christianisme voudrait s'adapter au milieu local où il est exercé. Donc, en Égypte, quand un chrétien copte parle de Allah, l'Égyptien musulman comprend que c'est le Dieu. Il ne pose pas un problème. Et le problème malais n'est tout à fait qu'un problème extrémiste, c'est un problème politique, comme vous l'avez annoncé. Dieu, c'est en français. Dans la langue locale, il y a plusieurs noms. Et les Arabes l'appellent Allah. Mais sa conversion en français, c'est toujours Dieu.
Alors, Vincent Sognon dit « Aller au Nigeria, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, en Centrafrique, pour voir comment cette religion, j'imagine qu'il parle de l'islam, menace la vie humaine avec leur groupe de terroristes. Moi, je suis contre le régionalisme, mais j'ai peur de ceux qui en Allah... Je ne vois pas la suite de son raisonnement. Je me demande si c'est Allah qui a interdit d'unir, dit-il, avec les chrétiens. » Bon, Ibrahim Njida écrit « Mon frère, prends garde à ce que tu dis. L'islam n'autorise pas la violence. Ce que tu vois ailleurs n'est que le résultat d'une discrimination à l'égard de cette religion. Avant de critiquer, comprends d'abord. » Et Amadou Diallo lui ajoute « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde son doigt. On te parle de l'islam, toi tu parles des musulmans. » Tu parles de la Syrie, de l'Irak, de la Centrafrique, de l'Afghanistan. Ce qu'ils font est contraire à l'enseignement de l'islam.
Oui, je voulais ajouter à ce que la réponse qu'on vient de donner est que les chrétiens doivent être aussi très très prudents et les chrétiennes de ne pas généraliser les positions extrémistes de certains groupes musulmans et les enseignements de l'islam. L'islam n'autorise pas le bain de sang. Mais les gens utilisent l'islam comme les gens utilisent la religion pour tuer d'autres personnes. Le christianisme n'est pas tout à fait, n'a pas de main propre. L'histoire des crusades et même l'histoire dans la Bible montrent qu'il y a eu beaucoup de bains de sang et qui continuent même dans les milieux chrétiens. Mais la Bible n'autorise pas, mais des chrétiens sont en train de tuer comme l'islam. Ça devient l'utilisation ou la politisation ou la criminalisation de la religion.
Merci, fidèle. Le pasteur Daniel Capepula est encore avec nous, pasteur?
Oui, je suis avec vous.
Alors, quelle autre réflexion?
Ma réflexion est que le christianisme, c'est une religion de paix de par l'origine et les fondements. De par le Christ lui-même. Alors c'est ce qui est différent parce que l'islam, lui, a fait des conquêtes par le sang, par des guerres. Si on veut comparer le christianisme au Moyen-Âge, ce n'est pas le même. Tandis qu'aujourd'hui, on ne peut jamais trouver des justifications de la violence dans la religion chrétienne. C'est pourquoi tout le monde reste dans la paix. Christ, c'est la paix. Tandis qu'aujourd'hui, on peut aller dans les textes islamiques et trouver des textes qui justifient la violence. Donc, on ne peut pas comparer ces deux-là sur le même banc aujourd'hui, non.
Fidèle, Fidèle Lumeya.
Ces derniers temps, le Maï Maï, avant de tuer, ils chantent des chansons religieuses, chrétiennes, et ils font tout ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Au Rwanda, les Hutus qui ont tué, les rises rwandaises étaient impliquées dans les génocides. Donc, vous n'allez pas parler de trouver le christianisme
en Ouganda,
des mains propres.
En Ouganda, il y a l'organisation de Kony qui se réclame.
Kony en Ouganda, il tue au nom de Dieu, des 10 commandements.
En fait, je crois que...
Le christianisme dans la région des Grands Lacs et partout, même actuellement, n'a pas les mêmes propres.
Fidèle,
donc, nous devons faire
pasteur Kapepula, je crois que, en somme, des deux côtés, il y a des choses à se reprocher. Il y a des gens sans scrupules qui utilisent la religion, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit une autre religion, pour pouvoir commettre des actes qui n'ont rien à voir avec la foi, qui n'ont rien à voir avec la religion. D'ailleurs, c'est pour démystifier ce genre de comportement que nous avons ce genre de dialogue. Alors, on me dit que... comment il s'appelle ? Francis nous appelle maintenant.
Oui.
Allez-y, Francis Moukeba.
Oui, moi j'avais une question, j'avais des difficultés du fait que l'islam devait se considérer comme une vraie religion. Alors, si l'islam se considère comme une vraie religion, qu'est-ce que alors l'importance de ce crise du réveil qui naissent du jour au jour ici en Afrique comme des champions, particulièrement la République démocratique du Congo? Et si l'islam se considère comme une vraie religion, quel serait alors le principe de la liberté de religion? Parce que tout le monde est libre d'opter une religion de son choix. Voilà moi la difficulté que j'avais.
Ok, je ne vois pas tellement le lien entre l'islam et les églises du réveil en Afrique, mais vous avez parlé du Congo, de la RDC, bon... Le pasteur et Fidèle sont tous les deux de la RDC. Alors, je leur laisse la parole. Pasteur Kapepula.
Oui, les églises de réveil sont beaucoup très inclus dans leur réveil. Et puis, ils ne connaissent... Ce qui est un problème avec les réveils, ils ne veulent même pas comprendre les autres religions. C'est ça le problème. Tandis qu'aujourd'hui, même mon pays... L'Est est attaqué vraiment, l'islam est en train de prendre les terrains. Alors, comparer les deux, bon, parler des églises de réveil, je crois que c'est une question remise, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont aucune idée. Ils sont très pleins dans leur réveil, là. Alors, le problème est que nous qui raisonnons, comme toi, tu fais réfléchir les gens, pour qu'il y ait quand même un peu la modération, qu'on arrête un peu des hérésies. J'admire ce que tu fais aujourd'hui avec nous. C'est pour que nous puissions revenir au texte et dire aux gens qui vont à l'extrême, non, c'est pas l'extrémisme, mais c'est la tolération, c'est la modération, c'est ça la religion.
Merci, pasteur Kapibouya. Alors, comment dirais-je, on me signale aussi que notre auditeur a une autre question à poser et il va la poser à Fidèle. Allez-y. Nous avons un problème avec cette liaison téléphonique. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé... Fidèle, vous n'avez pas répondu à cette question sur les églises du réveil dont parlait Francis Moukeba.
Oui, Francis, je voudrais dire qu'il faut comprendre que dans les études des religions, on a remarqué, ce n'est pas un phénomène... typiquement congolais seulement, même ici aux États-Unis. Mais pour généraliser, on dit qu'à chaque fois qu'une société passe par des crises économiques et financières, les gens retrouvent leur religion comme un endroit de refuge. Et quand la crise passe, ils rentrent dans de bonnes et vieilles manières. Donc il y a quelque chose à lire dans la crise économique que le Congo est en train de traverser, comme dans beaucoup d'autres pays. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir le réveil, le réveil des églises indépendantes.
Merci, merci à Fidel Ayoulouméa, écrivain, consultant en développement des organisations. Merci au pasteur Daniel Capepula, directeur du Centre chrétien de la Victoire, ici dans le Maryland. Et puis, nous disons merci à Joselle Morissin de l'autre côté de la vitre. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour avoir participé à cette édition. Idrissa Seydou Dia, La Voix de l'Amérique.